RCF.
Il est 18h10, bonsoir à toutes et à tous, le 18-19 en région, présenté ce soir par Alexis Claudretz.
Avec nos amis qui nous rejoignent à Vitry-le-François, à Sainte-Menou, à Épernay, à Châlons, en Champagne, à Reims, à Charleville-Mézières, à Rethel, à Vouziers, à Sedan, où que vous soyez sur le territoire de RCF en Champagne-Ardenne, on est très heureux de vous accompagner ce mardi après un week-end prolongé de la Pentecôte. On espère que vous avez bien profité, peut-être aussi que vous avez bien pèleriné, que ce soit dans le diocèse de Châlons ou dans le diocèse de Reims et les Ardennes, où était organisé hier un pèlerinage au bord du lac de Béron. On aura l'occasion d'y revenir, notamment avec Marie-Ange Turquet, délégué à la synodalité pour le diocèse de Reims et des Ardennes. Au programme ce soir, la mémoire catholique de la Pologne, épisode 2 et dernier épisode déjà, consacré à Częstochowa. On y reviendra dans quelques secondes avec Jean-François Boulanger. On ira faire un tour du côté de Sévigny-Waleppe dans les Ardennes avec Eric Guirch qui est le maire qui nous parle ce soir. On présentera la première foire champenoise avec Florian Maget, responsable de l'agence Déconimation. Le rendez-vous c'est du 24 au 26 mai. Il y aura pas mal de beaux événements ce week-end. On pense notamment aux fêtes joanniques dans la ville de Reims et plein d'autres que l'on vous présentera, comme les rencontres Instant Nature du côté de Bouvancourt. Patrick Girardeau également sera avec nous, le président du comité de jumelage Reims-Canterbury, parce que dans quelques minutes à 19h, il y a une conférence à propos du pétillant d'Evremont qui sera présenté en la présence de Pierre-Emmanuel Tétinger. Et puis enfin, Sylvie Devasme nous présentera la Journée internationale de la biodiversité. Le rendez-vous, c'est demain, mercredi 22 mai, que ça passe vite. 18h12, avant d'attaquer ce joli programme, on a de nouveau nos stagiaires à la rédaction qui nous accompagnent cette semaine. À mes côtés, Médina Erich. Bonsoir, Médina.
Bonsoir, Alexis.
Et Inès Elgaloussi. Bonsoir, Inès. Vous nous proposerez notamment toutes les deux la météo, des actualités avec la fête de la bière du côté de Charleville-Mézières, faire un petit bilan de cette édition. Et puis Arnaud Robinet qui était aujourd'hui à Paris, non pas au titre de maire de Reims, mais de président de la Fédération hospitalière de France. Il a retrouvé son amie rémoise Catherine Vautrin, la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, qui était aussi présente à Paris aujourd'hui. 18h13, désormais, on retrouve avec nous par téléphone Jean-François Boulanger. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Częstochowa, mémoire catholique de la Pologne, tel est le titre de la série d'émissions que vous consacrez au plus important lieu de pèlerinage de la Pologne. Donc, vous nous avez expliqué comment, dans la mémoire collective du royaume de Pologne, tel qu'il existait avant son démantèlement et le partage de ses terres entre les trois grandes puissances de la région, la Prusse, l'Empire autrichien et la Russie, la Vierge Noire de Częstochowa avait incarné la résistance victorieuse du pays aux invasions et comment le roi Jean Casimir avait consacré solennellement le pays à la protection de la Mère de Dieu et l'avait proclamé patronne et reine de tout son royaume. Mais notre histoire commence dans cette émission avec la disparition politique de la Pologne, Jean-François Boulanger.
Oui, tout à fait, parce que des divisions internes avaient affaibli la Pologne donc au 17e, 18e siècle. Et dans ce contexte se crée une alliance de nobles, la Confédération de Bar, dirigé contre le roi Stanislas Poniatowski, qui était devenu, disons, l'obligé, l'affidé des Russes. Et l'un des chefs de cette confédération, Casimir Pulaski, occupe à ce moment-là la forteresse de Jasna Góra à Częstochowa, donc là où se trouve le sanctuaire, et donc a été amené à la défendre pendant 3 ans. Il est vaincu donc en 1772, et cela devance de peu le premier partage de la Pologne. Donc vous voyez, Jasna Góra et Częstochowa se trouvent donc une nouvelle fois associés au sort de la Pologne, mais cette fois, hélas, pour la Pologne de façon négative.
Est-ce que cela signifie que Częstochowa va prendre de son importance pour les Polonais ?
Oui, alors elle prend une importance un peu différente parce que d'un côté, la division de la Pologne en trois et l'obligation pour beaucoup de Polonais de franchir une frontière, parce que le sanctuaire se trouve désormais dans la partie de la Pologne qui appartient à la Prusse. Donc, passage d'une frontière quand on vient de la partie qui appartient à la Russie ou à celle qui appartient à l'Autriche, dont le passage dépend de la bonne volonté des puissances occupantes. Et c'est évidemment un obstacle au pèlerinage. Et en même temps, se rendre à Częstochowa, c'est montrer que l'âme polonaise dépasse les frontières qu'on a imposées aux Polonais et que la division territoriale ne l'a pas fait disparaître, cette âme polonaise, bien au contraire. Et de ce fait, le lien entre l'Église catholique et le patriotisme polonais s'affirme plus que jamais, et le monastère devient un symbole de l'identité et de l'unité nationale, alors même que la Pologne n'existe plus en tant qu'État.
Cependant, Jean-François, si vous me le permettez, pourtant la Pologne renaît provisoirement à l'époque où Napoléon Ier domine l'Europe.
Eh oui, vous avez totalement raison, parce que la Pologne disparaît en 1795, mais dans le même temps, ou plus exactement un an après, il y a un jeune général qui s'appelle Bonaparte, qui s'illustre en Italie au détriment des Autrichiens, c'est-à-dire de l'une des puissances qui justement a démantelé la Pologne. Et dans les rangs de l'armée d'Italie, du général Bonaparte, il y a des Polonais qui n'ont pas renoncé à l'existence de leur pays et qui comptent sur la France pour les sauver. Donc ils ont constitué des formations militaires qui se battent en Italie aux côtés des Français. Et donc cet épisode des guerres d'Italie, de la campagne d'Italie, c'est le début de l'épopée napoléonienne qui va mener les armées de Napoléon en Pologne 10 ans plus tard, en 1806, après la défaite des Prussiens à Iéna. Et à ce moment-là, donc Napoléon appelle les Polonais à la révolte, et donc se forme une force armée dirigée par le général Dąbrowski, donc qui compte 30 000 hommes. Et donc les premières unités polonaises entrent en campagne contre les Prussiens dès février 1807. Et donc cette guerre se termine par des traités de paix qui sont signés à Tilsit et qui permettent l'apparition d'un nouvel État qui s'appelle le Grand-Duché de Varsovie, qui est confié au roi de Saxe, c'est un allié de Napoléon, le roi de Saxe Frédéric Auguste. Et donc ce Grand-Duché de Varsovie, qui, remarquons-le, ne porte pas le nom de Pologne, mais enfin il ressemble beaucoup, et qui ne comprend pas la totalité des territoires polonais, comprend notamment dans son territoire la ville de Częstochowa, qui retrouve sa fonction militaire et dont le pèlerinage connaît du même coup un regain, en même temps que la Pologne connaît un regain. Cependant, l'existence du Grand-Duché de Varsovie ne résiste pas à la défaite napoléonienne en Russie, la fameuse retraite de Russie. Et donc en 1813, donc ce Grand-Duché de Varsovie disparaît en même temps que la France doit évacuer la région, la Pologne, l'Allemagne, et le sort de la Pologne va être de nouveau réglé par les grandes puissances européennes lors du congrès de Vienne en 1814-1815, et la plus grande partie de la Pologne, dont Częstochowa, est alors attribuée à la Russie. Et donc commence alors, pour la majorité des Polonais, un siècle de domination directe de la Russie, tout au moins à Częstochowa.
Jean-François Boulanger, pour accélérer un petit peu sur votre développement, on imagine que ça va être une période difficile pour le sanctuaire de Częstochowa, avec des difficultés qui ne sont pas prêtes de s'arrêter.
Oh là oui, effectivement, parce que les Russes vont freiner le mouvement des pèlerinages, et en même temps, le bref épisode du Grand-Duché de Varsovie a montré que les partages de la Pologne ne constituaient pas un fait définitif. Donc pendant tout le 19e siècle, on assiste à un regain du nationalisme en Europe centrale et orientale, mouvement favorisé par le courant artistique et littéraire du romantisme, donc évidemment en Pologne c'est Chopin, qui prend appui sur la spécificité des cultures populaires et dans le cas de la Pologne sur la place du catholicisme que Częstochowa incarne bien entendu. Donc le sanctuaire est associé aux révoltes que la Pologne connaît à travers du siècle, notamment en 1863, des moines de Częstochowa, les moines paulins, sont à cette occasion déportés d'ailleurs en Sibérie à cause de l'aide qu'ils ont apportée aux insurgés, et donc l'imprimerie du monastère est fermée. Mais après la Première Guerre mondiale, la Pologne retrouve enfin son indépendance.
Et les difficultés ne seront pas terminées pour autant?
Et non, parce que le pouvoir soviétique, à la fin de la guerre civile de 1917-1921, une fois les Russes blancs et les nationalistes ukrainiens battus, donc l'armée rouge de Trotsky pénètre en Pologne dans le but d'aider la révolution allemande, donc à Berlin, et donc Varsovie est menacée. L'épiscopat allemand se réunit à ce moment-là à Jasnagora, donc Częstochowa, le 27 juillet, et renouvelle la consécration à Marie de la Pologne. Des milliers de pèlerins affluent vers le sanctuaire pour demander la libération du pays, et le 15 août, jour de l'Assomption, ils sont exaucés, c'est ce qu'on a appelé le miracle de la Vistule. Un miracle dont l'objectivité oblige à dire qu'il doit beaucoup quand même au génie militaire du général Piłsudski et au soutien militaire apporté à la jeune Pologne par une mission militaire française de 400 officiers, dont faisait partie un jeune officier qui s'appelait Charles de Gaulle. Toujours est-il que dans l'esprit de nombreux Polonais, le destin de leur pays est plus que jamais associé à Częstochowa, et donc le sanctuaire est très actif pendant toute l'entre-deux-guerres, comme en atteste le pèlerinage étudiant de 1936 qui voit 25 000 jeunes gens, dont un jeune dénommé Karol Wojtyła, venir renouveler la consécration du pays à la Vierge. Mais en 1936, nous sommes à 3 ans du début de la Deuxième Guerre mondiale qui va voir la Pologne succomber à une double attaque de l'Allemagne nazie d'un côté et de l'URSS stalinienne de l'autre.
Jean-François Boulanger, on va avoir une minute pour terminer ce déroulé. Quelles sont les conséquences de ces événements sur le sanctuaire ?
Alors, le sanctuaire est occupé par les Allemands et les pèlerinages sont de nouveau interdits. Et puis, il est libéré, si on peut dire, par les soviétiques, les chars soviétiques, le 16 janvier 1945. Les nazis fuient. Alors, une libération toute relative parce que l'Église va connaître une nouvelle période de persécution sous le pouvoir communiste. Par exemple, le cardinal Wyszyński est jeté en prison par les communistes. Et donc, il écrit du fond de sa prison en 1956 une prière pour la nation qui, en quelque sorte, rappelle le vœu de Jean Casimir. Cette prière est lue à Jasna Góra lors d'un pèlerinage pour le 300e anniversaire donc de cette consécration devant 1 million de pèlerins. Et donc, vous voyez, Częstochowa est devenu un lieu de résistance. L'icône de Częstochowa est bénie par Pie XII, elle traverse toute la Pologne de paroisse en paroisse, et puis j'allais dire, Paul VI aurait bien aimé aller en Pologne, il n'a pas le droit, il ne peut pas, mais un autre pape se rendra en Pologne, et notamment à Częstochowa, ce sera Jean-Paul II, et rajoutons que Lech Wałęsa, qui a contribué à cette histoire de libération de la Pologne, a déposé son prix Nobel de la paix, donc dans le musée du sanctuaire de Częstochowa.
Merci Jean-François Boulanger de nous avoir éclairé sur Częstochowa, mémoire catholique de la Pologne. Ces 2 dernières semaines, c'est la fin de cette série. Merci pour votre adaptabilité en direct. C'est du grand génie. À très bientôt Jean-François.
Absolument. À bientôt. Au revoir.
Le 18-19 sur RCF.
Et nous, on va retrouver tout de suite un maire qui nous parle. Il est l'édile de Sévigny-Valepes. C'est Éric Guirche qui est avec Jean-Pierre.
Éric Guirche, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est l'occasion pour nous de donner un coup de projecteur sur votre commune, Sévigny-Valepes. Est-ce que vous pouvez rapidement nous la présenter ? Combien d'habitants ? Il y a certainement 2 villages, Sévigny et Valepes, s'il y a deux termes.
Oui, donc nous avons Sévigny et le hameau de Valepes qui est à 2,5 km. Sur l'ensemble, nous étions 224 habitants au recensement qu'il y a eu en 2020. Et la commune conserve toujours à peu près le même nombre d'habitants, ça varie très peu, il y a des départs, des arrivées. Dans notre commune, nous avons des cultivateurs, des ouvriers, des retraités. Au niveau des personnes retraitées, nous avons une trentaine de personnes de plus de 70 ans.
Et on imagine, monsieur le maire, que vous connaissez tout le monde. Est-ce que vous êtes un enfant du pays, au fait ?
Non, pas du tout. Je suis arrivé ici en 2018.
Ah ben vous êtes un récent habitant de Sévigny.
Oui, oui, oui.
Et on a fait appel assez rapidement à vous pour devenir maire, parce que vous n'aviez pas eu beaucoup, petite expérience peut-être quand même au conseil municipal.
Non du tout, j'ai déjà été conseiller, mais sur notre commune, dans les Ardennes. Et ici, je me suis présenté, j'avais envie de m'investir et du coup, je me suis retrouvé maire. C'est un peu par hasard.
Alors, simplement en un mot, monsieur le maire, quand on examine, qu'on regarde un petit peu la situation... Est-ce que vous pouvez nous situer la commune pour nos auditeurs des Ardennes et de la Marne surtout ? Votre commune est à la frontière, on peut le dire, entre la Marne et l'Aisne. Elle est à combien ? 25 km de Rethel ? Elle est plutôt dans le sud des Ardennes, enfin à mi-parcours dans les Ardennes.
Oui, nous sommes à 29 km de Rethel exactement.
Donc ça veut dire quand même que le village le plus proche, le bourg le plus proche, c'est en gros c'est Rethel quand même.
Oui, c'est Rethel.
Évidemment, monsieur le maire, je vous interromps, mais on dit toujours dans un village, il y a forcément l'église au centre du village, et l'église de Sévigny-Valepes est l'objet quand même de toute votre attention. De quoi s'agit-il exactement, Éric Guirche ?
En octobre 2020, j'ai découvert un courrier des Bâtiments de France qui alertait sur le mauvais état sanitaire du fût du clocher. Je suis allé voir et effectivement, il y avait un gros souci, de gros risques. Donc j'ai fait un arrêté de fermeture de l'église et des accès. Et depuis, nous sommes en train de travailler pour trouver des financements pour effectuer les travaux de sauvegarde. Car si rien n'est fait rapidement, le clocher risque de tomber.
Mais alors, monsieur le maire, c'est une somme faramineuse pour une commune comme Sévigny-Valep. La première tranche de travaux, ça s'élève à peu près à combien ?
Donc oui, sur les quatre tranches, la première est primordiale pour la sauvegarde de l'église et elle est évaluée à 1 176 452,17 euros. TTC.
Ah, vous êtes précis, monsieur le maire, mais le budget de la commune, bien sûr, n'est incapable. C'est à peu près, c'est moins de 100 000 euros par an, hein. Donc, vous pouvez pas. C'est peut-être un appel aux dons parce qu'il y a une association qui s'est créée. Je crois qu'il y a aussi la Fondation du patrimoine qui, éventuellement, vous donne un coup de main.
Oui, oui, nous avons signé une convention avec la Fondation du patrimoine et nous avons une cagnotte en ligne qui est déjà dans les 10 000 euros environ.
Alors, il y a encore du chemin à faire, hein.
Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais bon, c'est déjà bien de voir que les gens sont attachés à leur église. D'ailleurs, il y a une association qui s'est créée en février 2023, sur le monde patrimoine de Sévigny-Valep, qui organise des manifestations afin de générer des bénéfices qui seront reversés pour les travaux de l'église.
Donc, alors cette association, on l'encourage bien sûr sur RCF, parce que beaucoup de personnes, même si on sait très bien que dans les villages, il n'y a plus beaucoup d'offices, il n'y a plus beaucoup de messes régulières, mais tout de même, ça fait vraiment partie du patrimoine. Il y a beaucoup d'habitants qui ont habité à un moment donné à Sévigny. Ils veulent retrouver leur église de temps en temps pour un mariage, et évidemment pour des décès malheureusement. Mais c'est quand même important pour les habitants.
Oui, oui, oui. Quand il y a un décès, les gens sont obligés de demander à la commune de Saint-Quentin-le-Petit, qui se trouve à côté. C'est dommage.
Éric Guirch, bon, je vous coupe parce que, évidemment, on aura l'occasion de vous retrouver. On a encore, bien sûr, quelques minutes avec vous. Donc, l'essentiel, en ce moment, c'est la restauration de l'église. Ça vous demande beaucoup d'énergie. Il y a une association qui est créée. Il y a une cagnotte en ligne. Il y a la Fondation du patrimoine qui est sur le coup. D'ailleurs, on invitera prochainement Pierre Possémé ou Bernard Deloriston pour nous en parler. Mais il y a peut-être aussi quelques autres projets. Peut-être de voirie, peut-être d'aménagement, peut-être des fleurs, peut-être, j'allais dire, le quotidien de la commune.
Oui, donc on essaye de tous les ans de s'améliorer au niveau du fleurissement. Bon, il y a un peu de voirie forcément, du curage de fossé, enfin les travaux nécessaires qui reviennent régulièrement. Et nous avons eu un autre gros dossier, c'est l'aménagement du cimetière et son agrandissement. Parce que il nous restait plus que 5 places dans le cimetière actuel. Donc il faut qu'on a acquis une parcelle voisine de façon à agrandir. Et donc entre les travaux d'aménagement, d'accès et d'acquisition, la commune en a pour 60 000 euros.
Oui, ça coûte de l'argent, hein, bien sûr, ça coûte de l'argent. Et donc ça, pour un budget de 80 000 euros ou 100 000 euros, 60 000, c'est quand même beaucoup plus l'église. Alors comment vous vivez depuis que vous avez été élu maire, ces fonctions? Il y a beaucoup de gens qui se disent aujourd'hui, qu'est-ce que c'est lourd d'être maire? On ne croirait pas le travail que ça demande, les paperasses, l'administration, les gens qui vous interpellent parce que vous êtes à portée d'engueulade, comme disait Gérard Larcher au Sénat. Ça aussi, vous le vivez au quotidien, mais vous aimez bien ça, vous êtes passionné, Éric Guirch.
Oui, oui, mais il le faut, hein, pour faire son travail correctement, c'est nécessaire. Après,
mais est-ce que vous avez, ça je vous interromps encore, est-ce que vous avez encore, c'est peut-être indiscret, une activité professionnelle? Parce que il y a beaucoup de maires qui sont en retraite et qui dégagent quand même beaucoup de temps et ils sont libres en journée, alors que quelqu'un qui a une activité professionnelle, lorsqu'il est maire de la commune, il a quand même beaucoup de contraintes.
Oui, oui, moi je suis encore en activité. Et c'est vrai que le poste de maire était très prenant et que quand on travaille, c'est un peu plus compliqué.
Pour des réunions, parce que vous êtes obligé de les faire forcément en soirée ou en début de soirée, ça c'est quand même beaucoup. Enfin, en tout cas, vous êtes un passionné. Et moi, ce que je vous propose, Éric Guirch à Sévigny-Valep, c'est que on se retrouve assez prochainement parce que on va reparler de l'église, donc avec Pierre Possémé, puisque la Fondation du patrimoine est sur l'affaire. Et puis, on vous demandera si vous êtes d'accord d'intervenir pour demander à des donateurs éventuels de venir vous rejoindre. Merci en tout cas Éric Guirche d'avoir été avec nous. Vous êtes le maire de Sévigny-Valep. À bientôt sur RCF.
À vous également, oui, à bientôt.
Et merci Jean-Pierre de nous rendre la parole dans les temps pour lancer le journal régional de 18h30. Les titres de ce mardi 21 mai 2024, le collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne s'est vu décerner le prix coup de cœur du jury du festival Cinévéo. Reportage. Après 7 années passées en rouge et blanc, Younis Abdelhamid a disputé son dernier match avec le Stade de Reims dimanche face à Rennes. Portrait du défenseur central rémois.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Le traditionnel pèlerinage diocésain de la Pentecôte du diocèse de Reims et des Ardennes se tenait ce lundi sous le thème « Jésus se manifesta de nouveau à ses disciples au bord du lac » tiré de Jean, chapitre 21, verset 1. Il était donc organisé au lac de Béron, près du Chêne, dans les Ardennes. Marie-Ange Turquet, déléguée diocésaine à la synodalité, témoigne par téléphone avec Jean-Pierre.
C'était quand même très providentiel, ce soleil, entre deux périodes de pluie. Et puis, ça nous a permis d'apprécier un site qui était très beau, avec une organisation qui est maintenant très bien rodée. Donc voilà, c'était vraiment un très bon moment qu'on a pu passer ensemble. J'ai vraiment apprécié. Et puis, le déroulement du pèlerinage est vraiment bien équilibré. Le matin, on a une marche en espace missionnaire. Et ça, c'est vraiment important, parce que moi, je me suis aperçue que je connaissais encore plein de gens que je connaissais pas dans mon espace missionnaire. Et donc, ça nous permet un peu d'aller les uns vers les autres. Et c'est pas si facile, même un espace missionnaire. Voilà. Et puis après, il y a eu un temps commun qui était un peu plus important que les autres pèlerinages avec des ateliers. Mais justement aussi ces échanges un peu informels qu'on peut avoir avec des chrétiens d'autres coins du diocèse. Ça, c'est vraiment appréciable.
18h32, sans transition, on parle éducation.
Le prix coup de cœur du jury Cinévéo 2024. Est attribué au Collège Notre-Dame-Perrier pour son film Coco.
Sous les ovations du public, le Collège Notre-Dame-Perrier de Châlons s'est vu décerner le prix coup de cœur du jury du festival Cinévéo. 8 élèves de 4e et 3e, guidés par leur professeur d'espagnol, Marie-Christine Boutillier, se sont lancés dans la réalisation et le tournage d'un film inspiré du célèbre Coco de Walt Disney dans le cadre du concours Cinévéo. Fabienne Martin, formatrice au sein de l'atelier Canopée et coordinatrice du festival Cinévéo, responsable de l'atelier, nous en dit plus.
L'objectif, c'est de favoriser la pratique de la langue, l'expression écrite et orale d'une langue vivante étrangère, et tout en proposant aux élèves une pédagogie de projet dans lequel ils vont pouvoir développer des compétences transversales autour de la communication, la créativité, la collaboration et le développement de leur esprit critique par rapport à une œuvre cinématographique.
Les collégiens à l'image de Tempérance, Justine, Laura et Amy partagent avec nous leurs émotions et leur enthousiasme.
Moi, du coup, j'ai bien aimé, mais c'est juste que avec le stress et tous les gens qui nous regardaient, j'ai un peu bégayé sur le texte et je me rappelais plus de ce qu'il fallait dire. Du coup, j'ai improvisé, mais sinon, l'émotion, c'était une belle expérience et je suis pas déçue de pas avoir eu le premier prix. Enfin, je suis contente pour les autres aussi parce qu'ils avaient fait un bon travail et d'avoir le coup de cœur, bah, c'est quand même cool.
Bah, du coup, c'était une belle expérience. Bah, les autres, je suis contente pour eux. Et c'était stressant aussi.
Moi, je trouve que c'était aussi une très bonne expérience. Et je trouve qu'on s'est bien amusé, qu'on a pu bien faire connaissance, etc. Et tout. On a beaucoup rigolé, beaucoup appris. Et bah, je trouve qu'on a bien gagné. Enfin, je suis contente pour les autres, ceux qui ont la première place.
Ces collégiens nous partagent leurs critiques sur leur propre production cinématographique.
Pour moi, parmi tous ceux qu'on a vus, ça reste le meilleur. Vraiment, il était très beau, très bien présenté. On aurait vraiment dit un vrai film.
Moi, j'ai trouvé que le montage était très bien fait et que comparé aux autres, bah, il y avait plus de scènes et le montage était bien fait.
Moi, je trouve qu'on a été le meilleur film. Enfin, je trouve que c'est juste peut-être à l'oral qu'on a mal. Enfin, on n'a pas assez peut-être parlé, mais je trouve que c'était super bien dans l'ensemble. Et donc, au niveau du film, je pense qu'on a été les meilleurs.
Je suis très fière de nous parce qu'on a eu le coup de cœur et même si on n'a pas gagné, on repart d'ici avec de bons souvenirs. C'est une bonne expérience et je suis heureuse pour nous d'avoir le coup de cœur. Je suis fière de nous.
Cette aventure cinématographique n'est pas seulement un succès artistique, mais aussi une véritable leçon de vie pour ces jeunes réalisateurs en herbe. Le maire de Reims et président du Grand Reims, Arnaud Robinet, a retrouvé Catherine Vautrin, actuellement ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, sur un salon national aujourd'hui. Inès Elgaloussi.
Ce mardi a été inaugurée la 58e édition du Santé Expo par Arnaud Robinet à Paris, maire de Reims mais aussi président de la Fédération hospitalière de France, une édition historique pour la FHF qui fête son centenaire. À partir de 11h30, l'écosystème santé a commencé à se réunir durant 3 jours exceptionnels pour agir maintenant et bâtir la santé de demain. Arnaud Robinet a retrouvé quelqu'un qu'il connaît bien, en la personne de Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, pour lancer cet événement. À cette occasion, un livre blanc a été dévoilé à propos de la transformation de notre système de santé. Une convention entre la FHF et la Fédération nationale des communautés professionnelles territoriales de santé a été signée à la suite de cette journée par Arnaud Robinet et David Guillet, un infirmier en exercice libéral. En effet, la collaboration entre les hôpitaux publics et les CPTS dans les territoires est essentielle selon le maire de Reims.
Merci Inès. Parmi les rendez-vous du week-end, il y avait aussi la fête de la bière à Charleville-Mézières. Une édition 2024 contrastée, Médina est riche.
Ce samedi 18 mai, la place Ducale à Charleville-Mézières a vibré au rythme de la fête de la bière. Dès 12h30, l'événement déjà bien entamé depuis vendredi soir a ouvert ses portes pour une journée pleine d'animation et de convivialité. L'ambiance était à son comble. Entre les stands de dégustation et les amateurs venus pour les concerts, la foule était au rendez-vous. D'ailleurs, le groupe de rock les Black Korbach a ouvert les festivités musicales de l'après-midi à 15h30, suivi du groupe Funk Electro Roots à 17h et No Way à 19h30, captivant l'audience avec leur énergie débordante. De surcroît, un membre de l'association organisatrice Bière en Fête a mentionné que 20 000 éco-cups ont été vendus, témoignant du succès de l'événement. Malgré une météo capricieuse, la fête de la bière a su maintenir son rythme jusqu'à lundi grâce à la diversité des 77 stands et des animations proposées pour les amateurs de bière et de musique.
Merci Médina, et ce sont tout de même 50 000 visiteurs qui se sont rendus sur cette fête de la bière tout au long de ces 3 derniers jours. On parle football désormais.
Le numéro 5, capitaine exemplaire, défenseur en fer et leader du vestiaire, Younis.
Avant le coup d'envoi de la rencontre entre le Stade de Reims et Rennes dimanche, les supporters rouges et blancs n'ont plus qu'un nom à la bouche, Younis Abdelhamid. Après 7 années en tant que stadiste, l'international marocain de 36 ans et le club avaient annoncé début 2024 mettre fin à leur collaboration à l'issue de cette saison. Pour la DRDDR, son nom résonne fort dans de l'Aune. Les supporters le scanderont de plus belle à la 48e minute de jeu lorsque leur emblématique capitaine ouvrira le score sur penalty. Sur le terrain, Reims s'impose finalement 2-1 et termine la saison à la 9e place de Ligue 1. Après la rencontre, place aux festivités et à l'émotion pour Younis Abdelhamid.
Le soutien que j'ai, voilà, les supporters qui ont toujours été là, peu importe les moments, peu importe les performances, bonnes ou mauvaises, ils ont toujours été là et derrière moi, et ça, honnêtement, j'en serais toujours reconnaissant. Et en tout cas, voilà, par rapport au soutien, aux chansons, à tout, les banderoles et tout que je peux voir. Honnêtement, c'est une chose qui me fait très plaisir et qui fait aussi plaisir à ma famille. Et honnêtement, c'est une grande fierté. Et pour ça, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de tristesse parce que, honnêtement, voilà, j'étais attaché au public rémois et au rémois en général. Donc, voilà, en tout cas, je les remercie. Je les remercierai toujours.
Younis Abdelhamid à Reims, c'est 254 matchs, dont 156 avec le brassard de capitaine, 22 545 minutes jouées, 16 buts inscrits et 2 passes décisives. Pas si mal pour un défenseur central. Évidemment, son départ ne laisse pas indemne ses coéquipiers, Yevan Diouf, Emmanuel Agbadou et Teddy Thomas, ni son dernier coach, Samba Diawara, qui témoigne au micro de RCF.
Ouais, c'est une relation de confiance. Même avec Agba, on se doit de se faire confiance mutuellement, d'avoir pas mal d'automatisme. Donc on est très proches les uns des autres.
Et c'est quelqu'un de formidable, j'ai beaucoup appris à ses côtés. Voilà, j'ai beaucoup progressé à ses côtés. J'ai eu beaucoup de maturité à jouer avec lui. Donc après, c'est le football, c'est la vie, tu te dois de t'adapter puis d'avancer, mais c'est un bon gars.
C'est quelqu'un qui est très respectueux et qui est respectable, avec voilà, la tête sur les épaules, de vrais principes et valeurs, et qu'il a inculqué au Stade de Reims, et je pense qu'il fait partie des légendes de ce club, tout simplement.
D'avoir à driver quelqu'un comme lui, c'est juste un rêve. Il est, malgré ses 36 ans, plein d'ambition, il travaille, il est exemplaire. J'aurais adoré jouer avec quelqu'un comme lui.
Des propos recueillis au micro de RCF Reims-Ardennes. Côté résultat, le Stade de Reims féminin a concédé le match nul 1-1 dans le temps réglementaire à l'occasion du match pour la 3e place de D1 Arkema en play-off. Les Rémois se sont finalement inclinés au tir au but et finissent 4e de cette saison 2023-2024. En Ligue 2, déjà relégué à l'échelon inférieur la saison prochaine, 3 a concédé le match nul 1-1 contre Annecy lors de la dernière journée. Fin de saison aussi en basketball pour le Champagne Basket, battu jeudi lors du quart de finale aller des playoffs de Pro B. Chalon-Reims a de nouveau dû s'incliner dimanche sur son parquet face à Boulazac. Une nouvelle défaite synonyme d'élimination de la compétition. Hier lundi, le Champagne Basket a par ailleurs annoncé l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Vincent Dumaître officiera pour la première fois en tant que numéro 1. Il remplace Thomas Andrieux dont le départ avait été annoncé il y a plusieurs semaines déjà. 18h40, place à la météo avec Inès Elgaloussi. Rebonsoir Inès.
Bonsoir Alexis, bonsoir à toutes et à tous.
Aujourd'hui on a vu de tout, de la pluie, du soleil. Est-ce que le temps va aller en s'améliorant ce mercredi?
Oui. Alors, ce mardi 21 mai, cette nuit, le ciel sera nuageux dans les villes des Ardennes, où il fera 12 degrés à Charleville-Mézières et 14 degrés à Rethel. Dans la Marne, les nuages seront au rendez-vous, où il fera 14 degrés à Reims, Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François. Dans l'Aube, les températures sont estimées à 14 degrés à Troyes, Bar-sur-Aube et Bar-sur-Seine, et le ciel sera également couvert. Quant à la Haute-Marne, les nuages seront d'actualité, et nous annonçons 13 degrés à Saint-Dizier et Chaumont. Demain matin, dans les Ardennes, les nuages seront toujours au rendez-vous et il fera 13 degrés à Charleville-Mézières et 14 degrés à Rethel. Dans la Marne, nous retrouverons des températures estimées à 14 degrés et le ciel sera couvert à Reims et Vitry-le-François. Dans l'Aube, le ciel sera nuageux à Troyes et Bar-sur-Aube où il fera 14 degrés. Quant à la Haute-Marne, les températures sont estimées à 14 degrés à Saint-Dizier. Demain après-midi dans les villes des Ardennes, le soleil va sortir de son lit et il fera 18 degrés à Charleville-Mézières. Dans la Marne, le soleil sera également présent à Reims, Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François où il fera 19 degrés. Dans l'Aube, les températures sont estimées à 19 degrés à Troyes et Bar-sur-Seine où le soleil pointera le bout de son nez. Et enfin, dans la Haute-Marne, le soleil sera au rendez-vous car il fera 19 degrés à Saint-Dizier. Demain, nous souhaiterons une joyeuse fête à tous les Émiles. Je vous souhaite une agréable soirée.
Merci Inès, très bonne soirée à vous aussi. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Et on part au cœur du vignoble champenois où se déroulera ce week-end du 24 au 26 mai la première foire champenoise, découverte avec Florian Magère, responsable de l'agence d'éconimation, organisatrice de ce nouveau rendez-vous au micro de Christopher Fausten.
Bonjour Florian Magère.
Bonjour Christopher.
Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui sur RCF. Dans un premier temps, qu'est-ce qui vous a motivé, Florian Magère, à mettre en place une foire champenoise ?
Alors c'est un événement, on y réfléchit depuis un petit moment déjà, on avait envie de créer un événement qui soit au cœur du vignoble et qui rassemble vraiment l'ensemble des acteurs de la vallée de la Marne, que ce soit les artisans, les entreprises locales ou toutes les personnes qui ont envie et qui ont besoin de visibilité sur le secteur.
Pourquoi avoir choisi Dormans comme lieu de rendez-vous ?
Alors Dormans, c'est un choix géographique et aussi un choix de cœur, c'est-à-dire que Dormans, on est vraiment au cœur de la vallée de la Marne, on est aux frontières entre l'Aisne et la Marne, entre Château-Thierry et Pernay, et on est aussi sur un endroit riche de patrimoine, on a les châteaux de Dormans, le mémorial de la Grande Guerre, on a tout ce patrimoine qui fait que c'est une ville aujourd'hui qu'on a envie vraiment de valoriser, que ça soit nous, que ça soit l'association des commerçants, un petit peu par une multitude d'événements qui s'y passent.
Cette première foire champenoise se déroulera du 24 au 26 mai prochain avec 4 villages d'exposition durant 3 jours d'animation.
C'est ça, donc c'est une foire sur laquelle on va retrouver plusieurs villages d'exposition. On a un village qui est tout ce qui est artisanat et bien-être. On a un village qui est dédié à la viticulture et aux prestataires viticoles qui prennent une part importante de l'activité économique du secteur. Ensuite, on a un village qui va être dédié à tout ce qui est rénovation de l'habitat avec les dernières nouveautés en termes de rénovation pour améliorer son habitat ou pour trouver des idées travaux ou même des idées déco. Et ensuite, on a un village qui est un petit peu plus gastronomique et dédié vraiment au terroir, que ce soit le terroir champenois ou d'autres régions françaises, avec de la gastronomie, des alcools et puis des produits locaux à déguster.
J'imagine, Florian Magère, pour organiser 3 jours de rendez-vous, on a dû s'y prendre bien en avance. Parlez-nous un petit peu de cette préparation et puis de l'équipe qui vous entoure, parce que j'imagine que vous n'êtes pas tout seul.
Alors non, effectivement, on est deux sur ce projet. On n'est pas tant que ça. Il y a moi et ma compagne, Chloé. On est tous les deux dans l'entreprise et tous les deux investis à 100% dans l'événement. Et c'est un événement, on y réfléchit depuis juin 2023. Donc ça va faire bientôt un an qu'on y réfléchit et qu'on a envie de mener ce projet à bout. Et là, ça y est, on y est presque.
Le stress commence à monter ?
C'est ça, tout à fait. C'est les dernières petites minutes, hein, les exposants à organiser, les prestataires à booker, mais on y arrive. On voit le moment arriver, on voit la population dormaniste et puis alentour, les gens répondent présents à l'appel pour l'instant. Ils sont tous très heureux de l'événement. Donc on espère que ça va bien fonctionner pour cette édition.
Combien d'exposants pendant cette première foire champenoise?
Alors les chiffres d'aujourd'hui, on est encore un petit peu monté. On est à 125 exposants répartis sur l'ensemble des villages.
Florian Maget, à qui est destiné concrètement ce rendez-vous?
Alors c'est un rendez-vous un petit peu mixte. On est à la fois sur une cible un petit peu professionnelle pour la viticulture, pour que les gens du secteur puissent trouver des prestataires, trouver des partenaires pour ce domaine viticole. Mais après, on est vraiment sur un événement grand public avec des animations ciblées grand public tout au long de la journée. Et puis une découverte surtout des acteurs qu'il y a au local et puis même un petit peu de terroir. Donc non, c'est un événement qui est mixte et ciblé aussi le dimanche sur les mamans parce qu'on est le dimanche de la fête des mères. Donc nous, c'était très important pour nous de mettre en place des bars à massage, des espaces maquillage, des choses destinées aux mamans.
Pour la dernière petite minute qui nous reste, Florian Maget, quel est le message que vous voulez faire passer à nos auditeurs qui se trouvent peut-être à l'autre bout du territoire de la Marne ou de la Champagne?
Alors moi, j'aurais envie avant toute chose de donner un petit peu le programme avec les mini-fermes qui vont être présentes, les conférences, les dégustations culinaires. On a aussi une grande chasse au trésor dans tout le parc du château.
Ah, super.
Et bien sûr, on a des concerts tous les soirs et puis le dimanche après-midi, donc avec des groupes qui sont eux aussi locaux pour essayer un petit peu de donner une émulsion et puis de donner envie aux gens de venir écouter de la bonne musique locale en dégustant des produits de qualité. On a aussi la mascotte de la foire, la mascotte officielle qui va déambuler sur la commune et puis dans la foire pour proposer des petites séances photos et puis un grand parc de châteaux gonflables avec une dizaine de châteaux gonflables qui vont être là pour divertir les enfants pendant que les parents sont en train de vaquer à des occupations un peu plus adulte.
Alors pour tout ce qui est horaire, réservation, comment ça se passe?
Alors l'entrée est 100% gratuite, on a voulu faire une foire accessible à tout le monde. On est ouvert du vendredi au samedi de 10h à 21h avec les concerts qui débutent à 18h et le dimanche on fermera nos portes à 19h avec le dernier concert à 18h30.
Voilà, il n'y a plus qu'à inviter nos auditeurs à se rendre du côté du château de Dormans les 24, 25 et 26 mai pour cette première foire champenoise. Merci Florian Maget d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, responsable de l'agence d'éconimation, organisatrice de ce nouveau rendez-vous. À très bientôt.
Merci.
Florian Maget et Christopher Fausten, un rendez-vous que vous pourrez suivre sur les ondes de RCF Cœur de Champagne samedi à 11h et à 17h.
Le 18-19 sur RCF.
18h47, RCF, France-Ardennes, RCF, Cœur de Champagne, très court zoom avec Patrick Girardeau sur une conférence organisée dans quelques minutes. Le coup d'envoi, c'est à 19h. Patrick Girardeau, qui est le président du comité de jumelage Reims-Canterbury.
Bonjour Patrick Girardeau.
Oui, bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on connaît votre comité de jumelage, d'ailleurs qui a été, il y a 60 ans, créé ou en lien avec Jean Tétinger, dont on va parler.
Bien évidemment, bien évidemment.
Alors si on parle de ce sujet, Patrick Girardeau, c'est parce que à 19h, c'est à la Maison de la Vie Associative 122 bis rue du Barbâtre à Reims, il va y avoir une conférence avec Pierre-Emmanuel Tétinger, avec... Évremont, c'est le titre de la conférence, avec un sous-titre, Renaissance d'un grand nom, naissance d'un grand vin. Alors Évremont, ça va être une marque de vin effervescent, mais c'est aussi un personnage dans l'histoire qui a été choisi par Pierre-Emmanuel Tétinger parce qu'ils ont des vignes, vous allez nous expliquer tout ça,
oui,
en Angleterre.
Tout à fait, oui.
Des vignes en Angleterre, pourquoi Patrick Girardeau?
Alors, je ne suis pas spécialiste, hein, puisque je ne travaille pas dans le Champagne, malheureusement, mais on dit que le Kent, c'est le jardin de l'Angleterre, où il y a beaucoup de vergers, il y a des vignes même qui sont implantées depuis quelque temps, et la maison Tétinger a eu l'idée, la bonne idée, d'implanter des vignes dans le Kent.
Alors rassurez-nous, avec le comité de jumelage Reims-Canterbury, oui, ce n'est pas du champagne,
oui,
mais c'est un vin effervescent qui ressemble quand même pas mal.
Voilà, mais ça, on va laisser les spécialistes répondre de façon claire et nette à la question, mais c'est évident que l'appellation champagne ne peut avoir lieu qu'en Champagne, même si c'est créé par la maison Tétinger, qui a un savoir-faire qui n'est tout à fait réputé, si vous voulez. La maison Tétinger, par Pierre-Emmanuel et Vitalie, sa fille, insiste bien pour dire que c'est un vin effervescent.
Vous avez visité cet endroit?
Oui.
Un bel endroit.
Magnifique.
Qui ressemble quand même à nos paysages de Champagne,
tout
d'une certaine
façon. Tout à fait. J'encourage toute personne allant dans le Kent à Canterbury de faire le petit crochet par le joli village de Chilham. C'est vallonné, c'est joli. Oui, on se croirait en Champagne. Oui.
Alors, juste d'un mot, sans faire un cours d'histoire un peu long, Patrick Girardeau, Évremont, c'est un personnage qui est à la cour de Louis XIV.
Voilà.
Alors, il était quand même assez exceptionnel. Il était proche du roi.
Charles de Saint-Évremont était à la cour du roi Louis XIV. C'était un militaire qui a fait une brillante carrière militaire, mais c'était aussi un écrivain, c'était un poète, et c'était un épicurien qui aimait bien les belles choses de la vie. Il était à la cour de Louis XIV et il a eu peut-être la mauvaise idée d'émettre quelques critiques vis-à-vis de Mazarin, ce qui fait que le roi Louis XIV lui a demandé de s'éloigner un petit peu de la cour.
Alors il s'est éloigné d'abord en Hollande, puis il a rejoint l'Angleterre, donc le Kent, d'une certaine façon.
Un petit passage en Hollande, et puis surtout, il a été merveilleusement bien accueilli à la cour du roi Charles II à Londres, et donc il a fait sa place en Angleterre.
De là à appeler cette maison en Angleterre Évremont, il n'y a qu'un pas, un pas qu'a franchi Pierre-Emmanuel Tettinger et sa fille.
Alors, je pense qu'il a été, ou ils ont été inspirés par l'oncle de Pierre-Emmanuel, Claude Tettinger, le frère de Jean Tettinger, qui avait écrit, il y a quelques années maintenant, un livre sur Charles de Saint-Évremont, pour parler de sa vie, oui.
Alors, vous-même, vous allez souvent dans cette région de Canterbury. Vous y étiez allé il y a quelque temps, là, vous m'en aviez parlé tout à l'heure, avec la chorale, la maîtrise,
la maîtrise de la cathédrale.
Ça, c'est des bons moments. On peut inviter aussi les gens à adhérer à ce comité de jumelage.
Bien sûr.
Prince-Canterbury.
Bien sûr.
Et vous organisez régulièrement.
Oui, des conférences qui, d'ailleurs, l'entrée est gratuite, l'entrée est libre, c'est ouvert à toute personne, même non adhérente, et on est tout à fait heureux d'avoir une salle remplie, et je pense que mercredi 21 mai, il n'y a pas de raison que cette salle ne soit pas remplie pour Pierre-Emmanuel Tettinger.
Merci à tous les deux, rendez-vous à 19h.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Ce mercredi 22 mai, demain donc, est la journée internationale de la biodiversité, aussi appelée diversité biologique, une journée internationale créée en 1993 par les Nations Unies. Cette campagne sensibilise les citoyens à la richesse des espèces végétales et animales sur Terre. À cette occasion, la Ligue de protection des oiseaux Champagne-Ardennes ouvrira le bal de ce rendez-vous annuel avec la fête de la nature. Pour nous en parler, Sylvie Devasme au téléphone avec Christopher Fausten.
Bonjour Sylvie Devasme.
Bonjour Christopher Fausten.
Vous êtes responsable animation à la LPO Champagne-Ardennes, LPO qui veut dire Ligue pour la protection des oiseaux. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF. Cette journée internationale de la biodiversité va ouvrir le bal de ce rendez-vous annuel qui s'appelle la fête de la nature. Sylvie Devasme, présentez-nous cette manifestation.
Alors, la fête de la nature, c'est 5 jours de manifestation gratuite pour permettre à tous les publics de vivre une expérience de la nature à son contact. Et c'est tous les ans au mois de mai. Et donc, voilà, ça commence officiellement le 22 mai chez nous. Mais il y a des manifestations qui auront lieu un tout petit peu avant. Voilà.
Alors un rendez-vous, on peut dire, important pour vous en tant que LPO, Ligue pour la protection des oiseaux, de proposer ces différents rendez-vous.
Oui, c'est très important pour nous de recréer des liens entre le grand public et la nature. On se rend compte que la biodiversité est de moins en moins connue et du coup est de moins en moins tolérée également. Et donc effectivement, on essaye de réconcilier les différents habitants de la planète, quoi.
Et donc, la LPO Champagne-Ardennes, ses bénévoles et ses refuges pour la biodiversité sont à la fête avec 6 rendez-vous, dont le premier qui a déjà eu lieu il y a quelques jours, c'était samedi dernier. Il y en a 5 autres, ce sera ce samedi 25 mai, notamment à Giffaumont, Champaubert et Outine, avec la petite randonnée Terre et Jeux 2024.
Eh oui, alors là, en fait, on a un petit peu essayer de réconcilier sport et biodiversité.
Oui, c'est pas mal comme mélange.
En cette année de Jeux Olympiques, il y a beaucoup de manifestations périphériques, on va dire, autour des Jeux. Et donc, plusieurs parcours ont été créés en France ou alors vont être animés. Pour inciter les gens qui pratiquent une discipline sportive à regarder un petit peu quand ils pratiquent dans la nature ce qui les entoure et puis à pratiquer, les inciter aussi à pratiquer leur activité sans nuire à la biodiversité.
Sylvie Devasme, comment se passe la partie horaire et inscription pour cette petite randonnée ?
Alors, c'est sans inscription.
D'accord.
Voilà. Par contre, c'est vrai que, comme toute randonnée, il y a une heure de départ qu'il ne faut pas manquer.
Bien sûr.
Donc, le premier départ est à 9h30 et le deuxième à 14h30. Voilà. Et ce sont des animations qui vont durer 2 à 3 heures. Voilà.
Et puis, on rappelle, c'est du côté de Giffaumont, Champaubert et Outine ce samedi 25 mai. Et toujours ce samedi 25 mai, on retrouvera cette fois-ci à Pont-Sainte-Marie, ça c'est dans le département de l'Aube, la fête de la nature et journée refuge au parc Le Bossé.
Voilà, le parc Le Bossé, c'est un parc urbain assez riche et qui est refuge LPO. Voilà, donc ça, un refuge LPO, ça peut être créé par un particulier ou par une collectivité et ça permet de réaliser des aménagements ou de laisser la place à la biodiversité, voilà. On profite là de la fête de la nature pour parler aux habitants de Pont-Sainte-Marie et des environs de comment accueillir la biodiversité au jardin. On profite aussi du fait que pour la LPO, c'est l'année de l'arbre, pour faire un stand commun avec l'association Arbres Remarquables de l'Aube. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses lors de cette journée, de 10h à 17h, notamment des petites promenades dans le parc. Ben voilà, justement, pour découvrir comment on accueille la biodiversité dans un jardin. Des ateliers de bouturage, différents petits jeux pour mieux connaître la faune et la flore de nos jardins.
Voilà. 10h, 17h à Pont-Sainte-Marie dans le département de l'Aube. Toujours ce samedi 25 mai, on découvrira les richesses naturelles au jardin, mais du côté de la Haute-Marne, notamment au Pays.
Voilà, justement, un autre refuge LPO chez un particulier cette fois. Donc le particulier, c'est Marilyn Comois et son mari aussi, François, qui tous les ans ouvrent les portes de leur petit paradis terrestre pour faire découvrir les nombreux habitants de cet espace qui est tout de même un jardin, ce n'est pas la jungle, mais qui abrite des libellules, des amphibiens, des insectes, des oiseaux évidemment. Donc... ça va être une après-midi très riche, visite guidée en fait, et qui se terminera avec le verre de l'amitié.
Le verre de l'amitié, donc ce samedi 25 mai du côté de Pailly en Haute-Marne. On va du côté de Rives-d'Hervoise et à Seffond, toujours en Haute-Marne, pour découvrir les chemins de la biodiversité.
Voilà, alors Rives-d'Hervoise et Seffond, ce sont des communes qui ont depuis plusieurs années travaillé à... enrichir leur biodiversité et qui ont mis en place des programmes avec les habitants pour replanter des haies, planter des arbres fruitiers, créer des mares. Et donc, cette petite balade de 14h30 à 17h30, qui partira du City Stade de Puellemontier, eh bien, permettra de découvrir justement la faune et la flore qui ont pu reconquérir quelques petites parcelles dans ces villages.
Sylvie Devasme, on termine, si vous le voulez bien, du côté de la Marne, mais cette fois-ci à Levrigny.
Et oui, à Levrigny, où nous allons essayer de réconcilier les habitants du village et des villages alentours avec un animal trop méconnu et un peu maltraité à notre goût, qui est le blaireau.
Voilà. D'accord.
Donc, différents jeux, une sortie pour bien mieux connaître ce mammifère de nos campagnes.
Merci Sylvie Devasme d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, responsable animation à la LPO Champagne-Ardenne. Et on vous souhaite bien sûr une belle journée internationale de la biodiversité et une belle fête de la nature.
Merci beaucoup.
Merci Sylvie Devasme avec Christopher. Évidemment, toutes les activités présentées sont à retrouver sur le site de la Fête de la Nature. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain à 18h10 pour le magazine régional. Parmi les fidèles du mercredi, il y aura notamment Robert Reverger qui sera avec nous pour nous présenter son mot du jour. Merci Inès Elgaloussi de nous avoir accompagnés ce soir.
Merci à vous.
Merci Medina Erich.
Merci Alexis.
Merci Fabrice Gironnet à la mise en onde évidemment. Et puis merci à vous les auditeurs de RCF pour votre fidélité. On vous souhaite une très bonne soirée en compagnie de nos programmes. Dans quelques instants, l'information nationale. Votre rendez-vous avec l'information locale, c'est dès demain à partir de 7h sur RCF France-Ardennes, RCF Cœur de Champagne. Mais nos programmes continuent également de vous accompagner dès 19h12. Bonne soirée.